Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour et bienvenue dans cette première émission de l'année. Émission préparée par Corinne Valente et Lola Berthet, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Kevin Pelot et Rémi Sistiaga. Je dérobe le temps habituellement consacré à la gourmandise du jour pour vous dire que vous m'avez terriblement manqué au cours de ces 6 mois sans antenne. J'espère que cette période curieuse, inédite et pour certains très difficile, vous laisse quelques plages de joie. Enfin, le mot est trop fort, je veux dire quelques moments sans douleur ni inquiétude, des ataraxies temporaires. Vous allez entendre un échange jamais diffusé et enregistré en février dernier, juste avant le confinement et tout ce qui a suivi. Si nous semblons trop légers dans cet entretien, rassurez-vous, c'est du passé. Je déclare ouverte la 7e saison de Remède à la mélancolie. Enfin, si l'on compte les 2 premiers étés, on peut même célébrer la 9e, et c'est grâce à vous. Avant de mouvoir des corps dans ses fantaisies poétiques, notre apothicaire de l'âme naît dans l'Hexagone, puis assiste à sa propre croissance au Maroc et au Liban. Enfant, il rêve d'être clown ou de faire carrière dans la bande dessinée, discipline qui l'influencera plus tard dans son parcours de danseur et chorégraphe. À 13 ans, il tombe en arrêt devant la photo d'un danseur masqué qui le fascine. Elle représente son futur professeur de mime, le chorégraphe Isaac Alvarez. À 15 ans, il étudie le cirque avec Annie Fratellini, puis multiplie les cours de danse. Suivent des rencontres avec Alvin Nicolaïs, Régine Chopineau et Merce Cunningham qui l'influenceront de différentes manières. Notre apothicaire façonne depuis une multitude de pièces dansées au nom ludique, pièces habitées par sa fantaisie et son inventivité. Je ne résiste pas pour le plaisir à citer juste un titre, La Voix des Légumes. En 83, il crée une compagnie de danse dont les initiales correspondent aux mots diversité, camaraderie, agilité, impossible d'être exhaustive. 3 dates prises presque au hasard. En 92, on lui confie la mise en scène des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques d'Albertville. En 2009, une revue au Crazy Horse. Et en 2016, il est le premier metteur en scène français à présenter un spectacle à Broadway. J'arrête ici afin que sa voix remplace la mienne. Bonjour Philippe de Coufflet.
Bonjour.
Philippe de Coufflet, la première question dans cette émission, c'est quel rapport entretenez-vous avec la mélancolie ? Je voudrais d'abord évidemment la réponse à cette question. Et ensuite, je voudrais savoir si la douleur, vous arrivez à la mettre un peu dans la danse, puisque j'ai lu dans des interviews que, par exemple, pour votre pièce Décodex, vous veniez de perdre votre meilleur ami. Et vous avez mis toute votre rage dans ces danses, que pour le petit bal perdu que vous avez fait sur la chanson de Bourvil, vous dites que tout le monde trouvait ça joyeux, mais que vous l'avez fait suite à une séparation qui vous avait mis plus bactère. Et pour Solo, vous dites que c'était une cure de jouvence et que ça vous a évité des séances de psy. Alors Philippe de Coufflet, quel est votre rapport à la mélancolie et la danse est-elle une aide ?
Alors, oui, la danse est une aide et oui, comme vous, ça transparaît déjà à travers ce que vous avez dit, je suis assez mélancolique. Je suis sujet au spleen et de plus en plus, en plus de nos jours, c'est tellement facile de déprimer. Alors c'est vrai que mon truc, c'est le travail. Et j'ai appris assez tôt, assez jeune, lorsque j'étais à l'école d'Alvin Nicolaïs, justement, j'étais à l'école avec Dominique Boivin, qui est aussi chorégraphe, et qui m'avait appris qu'il faut aller puiser, que pour créer, il faut aller puiser dans ce qu'on, dans sa vérité, dans ce qu'on est, dans ce qu'on vit, il faut se servir de l'état dans lequel on est. Quel qu'il soit, et que je pensais jusque-là que seuls les sentiments positifs pouvaient porter la création, mais en réalité non. Enfin, l'art, en tout cas le mien, est une forme de travail dans laquelle on peut prendre des choses très noires et les transformer en fleurs, en choses heureuses, enfin, et d'aller puiser, puisque... Parce qu'il y a des sentiments noirs qu'on traverse tous dans la vie. Et du coup, c'est des sentiments qui sont universels. Et se servir de ça pour créer de la beauté, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc c'est pour moi assez curatif. Souvent, quand je vais mal, eh ben, je travaille et je développe des idées qui me mettent en joie, l'idée de les faire exister, l'idée de les partager, l'idée de... C'est souvent, ça marche souvent sur des petites choses, mais qui font que qu'on peut amener du piment, du bonheur, de la fantaisie dans les choses les plus, dans les moments les plus étranges et dans les situations les plus bizarres. Voilà. Et puis la danse est une chose, ça c'est comme un autre sujet, mais ça fait du bien. Physiquement, le fait de bouger, je pense qu'on peut dire ça de toutes les activités physiques. Le sport en général, et en ce qui me concerne la danse en particulier, c'est le fait de bouger son corps et de, donc déjà il y a un plaisir physique, parce que le fait de se dépenser, il faut déjà trouver son sport. Je pense que chacun doit trouver, on a tous des corps différents et on est tous appelés par quelque chose de différent, je pense. Moi j'ai trouvé, comme j'étais laxe, j'étais pas très puissant mais très laxe, et j'avais envie d'une forme de mouvement qui pourrait me permettre de m'exprimer. Je ne me retrouvais pas dans le sport, c'était pas la compétition, je n'ai pas l'esprit de compétition et je ne me retrouvais pas là-dedans. Mais je suis vraiment trouvé à travers la danse et toutes les formes de danse, il y a tellement de formes, on dit la danse, mais c'est d'une richesse extraordinaire.
Et vous les mélangez souvent d'ailleurs dans vos spectacles, Philippe Ducouflet.
Je les mélange, je me sers, comme c'est très 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 vaste, je me sers d'influences qui vont du folklore au ballet, en passant par le contemporain, le jazz, le hip-hop,
tout ce que vous voulez. Le flamenco.
Donc, oui, parce que tout est intéressant à partir du moment où il faut juste choisir les choses qui ont du sens par rapport à un propos, par rapport à une idée qu'on a envie de développer. Et alors le plus, c'est à donner du bonheur avec ça. C'est-à-dire que non seulement on fait quelque chose qui nous fait du bien, mais en plus, on sent bien qu'on fait partager une forme de joie, d'ouverture d'esprit, quelque chose de ludique. Donc donner du plaisir, ça en procure.
On va revenir à la danse et au corps, bien évidemment. Et dans quelques instants, Philippe Ducouflet, vous allez convoquer West Side Story, des corps en mouvement, La Bagatelle, Alice Roland, Alexander Calder, Joseph Racaille, le groupe Talking Heads et Merce Cunningham, juste après un titre de la playlist France Inter, Offense de Prudence.
Et toi qui écoutes et qui regarde en silence, j'abrège tes souffrances. I got so much on my mind. I've hurt you once, I'll hurt you twice. If I look straight into your eyes, I can tell we're done tonight.
Pardonne-moi mes offenses. Envers, contre tous, j'aimerais que
Remède à la mélancolie sur France Inter, en compagnie de Philippe de Coufflet. West Side Story, réalisé par Robert Wise et Jerome Robbins, adapté de la pièce musicale de Leonard Bernstein, Stefan Sondheim et Arthur Lawrence, créé en 57 à Broadway. Pièce elle-même inspirée de Roméo et Juliette de William Shakespeare. Il y a deux scènes que vous affectionnez, Philippe de Coufflet, l'ouverture et celle du bal qu'on vient d'entendre. Est-ce que vous pouvez la remettre en contexte pour les auditeurs ?
Alors d'abord, j'ai eu du mal à choisir. Je voulais choisir une comédie musicale et c'est vrai que c'est pas facile parce qu'il y en a plein d'extraordinaires. Mais West Side Story, c'est particulièrement touchant parce que c'est, il y a une forme de perfection, quoi, d'un point de vue sur comment filmer la danse, de voir à quel point, je sais pas comment ils ont réussi à faire des scènes aussi belles, aussi enlevées. La scène d'ouverture, donc, qui fait une dizaine de minutes, c'est deux bandes qui se courent après, c'est muet. C'est juste rythmé par la musique et quelques bruitages. Et c'est génial, c'est parfait. Et on peut revoir ça. Moi, je trouve que ça a pas pris une ride. Ces œuvres intemporelles, merveilleuses. Et on se rend compte, moi qui tente de faire des choses qui s'approchent de la comédie musicale depuis un petit moment, je me rends compte à quel point c'est difficile. C'est un art qui est très, très, très difficile. Très compliqué parce que c'est du divertissement. En même temps, il faut que ça ait une grande profondeur et puis il faut que ça soit hyper riche d'un point de vue musical, chorégraphique. C'est un art où le jeu, la danse, la musique sont à égalité et doivent être au top niveau. Et donc, West Side Story, c'est une forme de perfection à la matière. Donc oui, il y a la scène d'ouverture et puis cette scène du bal qui me touche toujours beaucoup parce qu'il y a cette espèce de moment suspendu là. On est dans une grande salle de bal. Déjà au niveau couleur, c'est sublime. Vous avez deux bandes qui s'affrontent et il y a les rouges, violets et les oranges, bruns, et qui sont les rouges, violets, c'est les latinos, les autres, c'est les américains, puis ils sont plutôt blonds. Je sais pas quelle est leur origine.
Ils sont plus bronzés que les latinos dans le film, ce qui est assez amusant.
Ouais. Et donc, il y a cette espèce de conflit entre assez fort, qui est marqué par les couleurs et par le type des personnages et par leur manière de bouger entre ces deux clans. Et puis, évidemment, il y a une fille d'un clan et un garçon de l'autre qui tombent amoureux. Et à ce moment-là, tout devient flou, je trouve ça merveilleux. Donc les deux amoureux sont là, face à face, et tout d'un coup, le temps est totalement suspendu, tous ces gens qui dansaient comme des fous se mettent à bouger hyper calmement, et ils deviennent flous, parce qu'effectivement, il n'y a plus que la personne dont on est tombé amoureux qui existe, et les autres disparaissent. Alors c'est à la fois très simple, c'est très basique, c'est un côté un peu neuneux, mais c'est tellement bien fait.
Il y a aussi quelque chose de frappant dans ce film, Philippe de Coufflet, c'est que quand les corps se mettent en mouvement, quand il y a des scènes de danse, on sent vraiment qu'ils exultent. La joie se lit sur les visages à tel point qu'on se demande pourquoi ils se bagarrent. Est-ce qu'on peut danser en étant triste ?
Bien sûr, on peut danser. Bah, de toute façon, notre métier, vous savez, quand on fait un spectacle, alors on crée un spectacle et puis après on le tourne à travers la France, le monde. Les dates de tournée sont établies et puis le cours de la vie continue et vous pouvez très bien vivre un drame absolu et continuer à être en tournée.
Bien sûr, mais ce que je demande, c'est quand le corps se met en mouvement, il amoindrit la tristesse.
Il y a une sorte de transmutation là. On arrive à transformer toujours les énergies. Je veux dire, si on est hyper triste et qu'on danse, eh ben on danse cette tristesse et ça crée quelque chose qui du coup n'est pas gai mais qui est beau. Si on arrive à accompagner ce processus. Donc voilà, c'est au moins beau si ce n'est gai.
C'est déjà pas mal.
Ouais, c'est déjà pas mal.
Steven Spielberg prépare un remake de West Side Story. Quel suspense. Et j'aurais aimé en savoir un peu plus sur votre rapport au cinéma, Philippe de Coufflet. Je sais que votre mère vous a fait aimer Eisenstein, Fellini, Truffaut, et plus que tout, Les Enfants du Paradis. Je crois que vous avez une fille qui s'appelle Garance.
Et un frère qui s'appelle Pierre-François.
Ah oui.
C'est dire.
Donc c'est dans la lignée.
J'ai demandé de nombreuses fois à ma mère pourquoi elle ne m'avait pas appelé Baptiste. Mais j'adore le cinéma. En fait, j'ai fait des spectacles un petit peu par défaut. Je rêvais d'être cinéaste. Enfin, d'abord d'être dessinateur, effectivement. Et puis, j'ai été attiré par les arts du spectacle. Et assez vite, j'ai toujours été fasciné par le cinéma parce que j'aime les deux, à vrai dire. Le spectacle vivant, c'est une forme qui permet d'être en contact direct avec le public et de vivre des moments d'une intensité rare. Mais le truc, c'est qu'au bout, ça fait quand même quelques années que je fais ce métier maintenant, et que la plupart des choses que j'ai faites n'existent plus que dans la mémoire des spectateurs. Le cinéma permet de graver
Vous
des choses.
Vous ne faites pas de captation de spectacle ?
Alors, si ça nous arrive de faire des... Je dis nous, parce que c'est un travail collectif. J'en suis pas encore à parler de moi à la troisième personne. Mais ça nous arrive, mais c'est pas fait pour ça.
Il y a beaucoup de vidéos, d'ailleurs, dans vos spectacles.
Un spectacle, c'est fait pour être vu avec des yeux. C'est le principe d'un spectacle vivant. Vous présentez quelque chose et vous présentez quelque chose dans lequel il y a un jeu avec le regard du spectateur. Vous allez lui donner le choix entre différentes choses à voir. C'est une construction qui est très particulière et dans laquelle le rapport direct au public est vital. Quand on coupe ça en mettant par le fait qu'on a une caméra qui filme et que ça va être vu sur un écran qui quand même a la faculté de tout glacer, de tout refroidir, il faut ce qu'on perd en échange avec le public, il faut trouver une manière de le remplacer par quelque chose et en l'occurrence c'est par une construction cinématographique, des gros plans, un autre traitement et du temps et de l'espace et de la dramaturgie. Donc adapter un spectacle au cinéma, c'est un vrai boulot. Et une captation en général, ça marche pas parce qu'on a vraiment pas la même notion et du temps et de l'espace et pas le même type de concentration. Enfin voilà, c'est très différent comme média.
Mais vous avez des projets, Philippe de Coufflet, de faire une comédie musicale au cinéma?
Absolument. C'est un rêve que j'ai depuis longtemps. J'ai travaillé déjà sur plusieurs projets. Là, je suis encore en train d'en développer un nouveau. Je touche du bois pour que ça se fasse.
C'est le corps qui a tout en lui, qui a le monde. Un artiste, enfin, je veux dire, l'enjeu de l'artiste, c'est de se situer, je veux dire, c'est comment il porte le monde en lui-même et comment, je veux dire, le monde est porté par le danseur. C'est sans cesse ce dialogue-là qui est mis en jeu. Oui, c'est ma relation au monde, ouais, sans cesse.
La danseuse et chorégraphe Régine Chopineau en 1998 sur Numéridance TV. On a choisi quelqu'un avec qui vous aviez travaillé, Philippe de Coufflet, pour introduire l'idée qui vous appuie. Je vous cite, « Trouver avec le corps ce qui échappe à la tête, bouger, faire du sport, du vélo, danser. » À nouveau, cet engagement du corps, c'est quand même difficile d'être dévasté de tristesse tout en dansant, en sautant. Il y a quand même quelque chose de l'énergie vitale qui sauve un peu l'humeur dans le mouvement.
Oui.
Rien à ajouter.
Non, vous l'avez dit. Non, j'ai pas grand-chose à ajouter. Oui, c'était le sens de mes réponses. Et vous m'aviez demandé une citation et j'avais envoyé Tout bouge de Merce Cunningham. Merce Cunningham était le mari de John Cage et il était chorégraphe. C'était un des plus grands chorégraphes de la danse moderne américaine, avec lequel j'ai eu la chance d'étudier un moment.
Des stages vidéo aussi.
J'ai été à son école à New York pendant un petit moment et j'ai fait un stage de vidéodance, mais qui m'a beaucoup appris. C'était très court, hein, ça a duré une semaine, mais c'était avec Charles Atlas, qui était son vidéaste à l'époque, et Meurce lui-même. Et c'était un homme, comme sa citation Tout bouge, qui n'avait pas peur de dire des choses très simples, mais qui moi, m'ont beaucoup remué. Là, en l'occurrence... Donc j'ai appris effectivement avec lui la rigueur d'une technique de danse moderne, parce que je pensais que c'était surtout en danse classique qu'il y avait une rigueur terrible. Mais avec lui, j'ai appris qu'on pouvait être aussi rigoureux en moderne, parce que c'est même encore plus compliqué. Enfin, c'est au moins aussi compliqué, l'écriture cunninghamienne. Et j'ai appris plein de trucs avec ce monsieur. Mais ça, ce Tout bouge, c'était... Parce qu'à cette époque-là, je cherchais... Donc d'abord, quand on commence la danse, on cherche à bouger. Et puis au bout d'un moment, on s'intéresse à l'immobilité, forcément. Parce que ça fait partie... Il faut toujours faire l'inverse. Donc j'ai travaillé, je cherchais à comprendre comment deux danseurs pouvaient vraiment être ensemble. Et puis j'ai regardé les théories de la relativité, de la simultanéité. J'ai compris que c'était pas possible, en fait. Un ensemble parfait n'existe pas, parce que tout dépend du point de vue. Donc ça, c'est déjà une chose qui m'a beaucoup servi. Puis après, j'ai appris que on pouvait pas, que l'immobilité n'existait pas non plus, que ce qu'on pouvait. Alors que j'avais travaillé, donc notamment avec Isaac Alvarez que vous citiez tout à l'heure, on travaillait sur les éléments et on a beaucoup travaillé sur la pierre notamment. Et donc normalement, la pierre c'est lié à une forme d'immobilité, c'est la recherche de l'immobilité. Mais on sait pas être immobile. Donc du coup, je sais pas, c'est vertigineux.
C'est-à-dire que même quand on ne bouge pas en apparence, les particules qui nous composent, tout bouge.
Absolument, c'est ce constat très simple. Mais de toute façon, on a plein de rythmes intérieurs, hein, la respiration, le cœur, tout ça. Donc déjà, tout ça est en mouvement permanent. Mais même le verre que je touche, la bouteille, le meuble, là, tout ça, et en fait, c'est des atomes qui sont surexcités tout le temps. Donc on est entouré de mouvements et de je pense que c'est comme vital de participer à ce mouvement global.
Quel est votre rapport au corps, Philippe de Coufflet?
Alors, je comprends pas très bien.
Mais
je
ne
me rends
ça,
pas très bien compte du rapport que les autres ont. Moi, en tout cas, ça continue. Le corps et le mouvement est un sujet qui continue à m'intéresser. J'ai pris le métro pour venir ici et j'observe les corps, la manière dont les gens bougent. Je trouve toujours ça passionnant. Ça dit beaucoup sur ce qu'ils sont.
C'est une des raisons pour les corps.
À mon corps.
Oui, c'est ça. Quel rapport un danseur avec son corps, avec la douleur des répétitions, avec le fait que la danse à la fois entretient le corps et l'abîme quand on en fait énormément. Quel est le rapport au corps du danseur dans cet Occident où on est si inhibé en général avec son corps?
Bon, ben nous, on doit être moins inhibé que la plupart des gens.
Avez-vous déjà eu des complexes?
Des complexes
physiques?
Oui, comme tout le monde. Mais c'est peut-être parce que j'avais des complexes que j'ai commencé à faire ce métier, à vrai dire. Parce que donc, quand j'étais jeune, je faisais quasiment pas de sport à l'école. Je bougeais quasiment pas parce que j'étais plutôt en retard. Bon, je me suis développé très tard. Et j'étais plutôt, c'était les années 70, j'avais les cheveux longs, j'avais plutôt envie de profiter les exemples de jeunesse de l'époque n'étaient pas des exemples très dynamiques. On était plutôt dans quelque chose où il y avait une espèce de dynamique hippie qui poussait plutôt à la mollesse. Donc j'étais plutôt mou, pas très dynamique et surtout détestant la compétition et tout ce qui était lié, à la compétition.
Donc
tous les sports, à la performance, au sport, les sports d'équipe, j'ai des souvenirs cauchemardesques de matchs de football dans la boue où on se retrouve à quatre pattes dans la boue, c'est terrible. Donc au départ, j'étais pas très à l'aise dans mon corps. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est grâce à ces stages d'expression corporelle, en fait. J'ai commencé à monter des petits spectacles. C'était plutôt l'envie de monter des choses, parce que je montais des spectacles à l'école. J'ai toujours monté des spectacles dans ma chambre. En fait, toujours des choses que j'ai fait, je sais pas pourquoi, mais j'avais du plaisir à inventer des scènes, à composer des musiques, à fabriquer des costumes, à travailler sur tout ce qui était un peu autour de la représentation. Pourquoi au juste, je ne sais pas, mais je sais que c'était là. Et le corps, c'est venu comme après. Je me suis rendu compte à un moment donné qu'il fallait bien que je travaille, que j'ai un outil un petit peu plus performant pour faire ce que j'avais envie de faire. Et là, j'ai découvert le plaisir de bouger, en fait. En commençant, en allant à ces stages et en commençant à prendre des cours, j'ai découvert le plaisir de partager, d'abord, le plaisir du collectif. Parce qu'il y a quelque chose dans ce métier, il y a une dimension collective qui est extraordinaire. Donc le plaisir de partager, de vivre ensemble des expériences physiques, de toucher des corps différents, ça aussi, ça a été une révélation pour moi au début. De se rendre compte à quel point les textures de corps étaient différentes. Et donc ça me fascinait. Et puis les différences de potentiel d'un corps à l'autre sont immenses. Donc j'ai eu envie, j'ai creusé, et puis j'ai commencé à trouver du plaisir. C'est ce que je disais au début. Et à un moment donné, vous vous rendez compte que vous faites quelque chose qui touche des gens, qui donne du plaisir. Et alors là, ça vous pousse à continuer.
Ça galvanise.
Quelque chose est possible.
Ah bien, soufflez pas.
Mais je viens de ce pas et je vais pas
ta part. Ah, suis-moi, veux-tu? Bien sans sourciller, allons gazouiller sous les palétuviers.
Ah oui, sous les palétuviers.
Ah, je te veux sous les pas, je te veux sous les palétuviers roses. Aimons-nous sous les pas, tu prends-moi sous les laits, tu aimons-nous sous les biais.
Pauline Carton et René Coval sous les palétuviers pour parler de l'activité qui vous grise, Philippe de Coufflet, faire l'amour. Alors, il y a une légende, vous savez, une légende qui court. On dit que les gens qui dansent bien seraient plus sensuels que les autres à la bagatelle. Est-ce que vous croyez à cette légende ?
Que ce serait des meilleurs partenaires ou quoi ?
Paraît-il.
Je ne saurais le dire.
Oui, c'est,
je n'ai pas une expérience suffisamment étendue pour pouvoir répondre.
Il aurait fallu que je couche
avec la terre entière pour vous le dire. Donc non, je ne sais pas très bien. Ce que je sais, c'est que moi j'ai un amour global du corps, des corps. Et vous me demandez, c'était dans vos questions, ce qui me...
Le coïtrice.
L'activité qui vous met en joie. Bah oui, faire l'amour, ça met en joie. Ça détend.
Oui.
Ça détend énormément. Il y a cette idée de partage, encore une fois. Et quand on sent qu'on partage quelque chose avec l'autre, il y a quelque chose de fusionnel qui est extrêmement agréable quand même. Donc, ça détend, ça redonne confiance en soi, c'est un plaisir qui surpasse la plupart des autres plaisirs quand même, hein. Parce que par ça, il y a manger, dormir et effectivement faire de la scène, être sur scène. Mais bon. Donc, c'est quelque chose de vital.
Nous découvrirons la carte poétique et littéraire d'une de vos danseuses juste après un morceau de la playlist France Inter, Alison Mozart, It Ain't Water.
It's late, getting later.
Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de Philippe de Coufflet. Votre onguent littéraire est paru en juin dernier chez POL, c'est Portulan de la danseuse Alice Roland. Qu'est-ce que c'est qu'un Portulan et qu'est-ce que c'est que cet ouvrage qui est aussi poétique qu'autobiographique et presque oulipien ?
Alors Alice Roland, c'est une danseuse et écrivain. Elle a écrit deux livres, là c'est le deuxième. Il se trouve qu'effectivement, nous avons travaillé ensemble. Déjà, une danseuse écrivain, c'est pas banal.
Non.
et elle a développé une écriture physique et poétique que je trouve tout à fait intéressante. Donc voilà, j'ai choisi ce livre parce que je le trouve beau.
Et tout au début de ce livre, il y a un plan détachable qui reproduit à l'identique le plan de métro parisien. Et elle a en fait changé tout le nom des stations avec soit des mots qui s'approchaient en sonorité, soit des associations d'idées. Et ça donne quelque chose d'assez poétique. Par exemple, la place Monge devient Éponge, École militaire Franz Kafka, Odéon Idéal, et Réaumur Sébastopol, Bromure ou Solution d'alcool.
Voilà, et du coup, donc elle a renommé effectivement, elle a pris un plan de Paris, elle a renommé toutes les stations, et elle a écrit des textes qui suivent le trajet de chaque ligne.
Aller-retour.
Aller-retour, en employant qui plus est un style littéraire différent à chaque fois.
Vous nous lirez un petit exercice. Extrait.
Alors je vous en lis un tout petit bout. Oui. Hein. Ligne 13, Cotillon et Frisely, Lanière d'Osier, Céladon d'hiver. À partir de la station La Langue Fourche, la ligne 13 est divisée en deux branches. Empruntez l'une ou l'autre à votre convenance. Cotillon et Frisely, je vacille, les lumières sont trop fortes, les cris trop furieux, c'est la nuit du Nouvel An. Il n'y a pas d'enfant dans le métro sauf une en toque doublée de synthétique blanc, les yeux grands ouverts. Chacun est parti pour finir la nuit. Où va-t-elle? À l'avant du wagon, une bande de filles et de garçons fous de joie. Pourquoi? Poussent des cris d'ours en transe. Soit qu'ils se réjouissent de finir l'année et d'en recommencer une autre, soit qu'ils se réjouissent d'être précisément dans l'intervalle entre deux années, ou qu'ils se réjouissent parce que la nuit leur paraît longue et grand ouverte, ou parce qu'ils sont nombreux à être contents. Ça ne plaît pas à l'enfant au chapeau. Ouvrez les vannes, ils se déversent sur le quai, au passage ils tapent aux vitres du métro. La joie est une chose terrifiante. La joie est une chose bizarre. La joie de cette nuit est aussi la promesse pour l'enfant de solitude d'un autre goût, plus fort, plus amer. Je pourrais le lui dire. Promesse d'arpenter à grands pas les rues, seul, avec autant d'énergie que ceux qui crient, c'est comme ça qu'on en vient à danser toutes les nuits, pour baigner dans la joie, sans parler aux joyeux.
Pas mal. La danse, la joie par la danse et la misanthropie assumée en même temps. Portulant, Alice Roland, lu par vous, Philippe de Coufflet.
I like writing, and I thought engineering was in a line.
Alors, le son n'est vraiment pas optimal, mais c'était pour le plaisir d'entendre sa voix. On entend le sculpteur et peintre américain Alexander Calder, qui dit en substance en 71 « J'ai toujours aimé faire des objets, j'en ai fait pour la poupée de ma sœur. J'aime travailler et penser que la conception mécanique rejoignait cette idée. » Vous avez choisi toute son œuvre, Philippe de Coufflet, mais j'imagine que comme vous vouliez être clown petit, vous appréciez particulièrement son cirque.
Absolument, j'apprécie particulièrement son cirque, mais aussi ses mobiles. Je suis fasciné par ses mobiles. J'adorerais en avoir un, mais ça coûte une fortune. Je l'admire beaucoup parce que je trouve que c'est très simple. On est dans c'est de l'art abstrait la plupart du temps quand même. Hein. Donc il y a des formes, des volumes, et que ce soit c'est mobile ou c'est stable, je trouve dans ces sculptures une forme d'harmonie qui me touche énormément. Donc voilà, j'aime. Et c'est léger, c'est en mouvement. En plus, il a travaillé sur des formes de sculptures qui sont très souvent en mouvement, donc ça doit être une raison pour laquelle je suis sensible à son art. Et il a notamment fait effectivement un petit cirque qui était bricolé à partir de bouts de fil de fer, de bouchons, d'objets improbables. Mais il faut voir ce court. Le petit cirque de Calder, c'est un court métrage qu'il faut, enfin, que je ne peux que recommander parce qu'on voit Alexandre Calder jouer avec tous ces petits objets et c'est un petit cirque merveilleux dans lequel il arrive à montrer je trouve une grande partie de la magie de cet art, encore une fois avec trois bouts de ficelle et c'est, voilà, c'est beau.
Philippe de Coufflet, j'ai lu que vous sculptiez.
Oui, l'un de mes passe-temps est la sculpture, mais je dessine, je fais des collages, des sculptures. J'aime beaucoup, une des choses qui me détend lorsque je ne fais pas de spectacle, c'est de créer des choses avec mes mains. Voilà, mais c'est de l'art brut, hein, ce que je fais.
C'est fait sans réfléchir,
je fais ça pour le plaisir et surtout sans réfléchir. Donc je prends un bout de bois et je taille dedans et puis au bout d'un moment je me rends compte que ça qu'il y a une forme qui est en train d'apparaître et donc je l'affirme plus ou moins, enfin...
Parlons rythme à nouveau avec vos antidotes musicaux. Remède à la mélancolie sur France Inter avec Philippe Decoufflet qui vient de nous faire entendre un morceau de 78. Thank you for sending me an angel. Merci de m'envoyer un ange du groupe américain Talking Heads. Pourquoi ce choix?
Parce que c'est un des morceaux qui pour moi est un remède à la mélancolie. Il est c'est gai, c'est enlevé, c'est dynamique, et puis c'est porteur. Alors ça c'est personnel. C'est relié à une époque où à ma jeunesse insouciante à Paris. Et c'est un des premiers groupes après le mouvement punk qui faisait une musique rythmée moderne. Le Talking Heads, les Têtes Pensantes, que je trouvais brillante. Quoi, leurs trois premiers disques sont super. David Byrne, le chanteur et leader du groupe, a ensuite fait des disques avec Brian Eno. Ils ont fait des choses aussi sublimes ensemble. C'est quelqu'un pour qui j'ai une grande admiration. Donc ça fait plus de 30 ans que cette musique me met en joie.
Vous avez réalisé des clips pour New Order, je crois, Philippe Decoufflet.
Ouais, j'ai fait très peu de clips, mais j'en ai fait un pour New Order et un pour les Fine Young Cannibals.
Et votre rencontre avec la danse, elle s'est d'abord faite dans les boîtes de nuit?
On va dire mon amour de la danse, parce qu'avant je savais que je travaillais déjà un petit peu dans le spectacle, donc j'ai commencé à 15 ans à faire ces stages d'expression corporelle, et puis après j'étais à l'école du cirque de Fratellini, et puis à l'école de Marceau, de mime de Marcel Marceau, et ensuite lorsque j'ai commencé à être un peu plus grand, je suis sorti en club, et c'est vrai que la danse était pour moi un art qui m'intéressait moins, parce que j'avais des clichés des hommes en collant, d'une recherche de beauté un peu désuète, comme ça. Je trouvais, pour moi, c'était ringard, en gros. Ça correspondait c'était un peu un art du passé et tout. Mais j'ai découvert en boîte le plaisir. Vous savez, quand vous dansez pendant une heure, deux heures, trois heures, vous sécrétez des hormones qui vous donnent beaucoup de plaisir. Donc j'ai trouvé et ce plaisir, et puis aussi, je vous ai dit en arrivant ici que j'étais pas à l'aise, que j'avais pas envie de parler, etc.
C'est vrai,
je suis fondamentalement, et ça s'arrange pas avec le temps, je suis fondamentalement, je sais pas si ça se voit là, mais je suis timide. J'avais des difficultés pour rentrer en contact avec les uns les autres. Je suis vraiment assez timide. Mais avec la danse, je le suis pas. Donc du coup, c'était j'ai trouvé un moyen de communiquer aussi, parce que j'allais dans ces boîtes. Il fallait d'abord bien s'habiller, être chic pour pouvoir rentrer. C'était la première chose, être accepté à l'entrée de la boîte. Et puis ensuite, d'une part, j'étais pas bien riche à l'époque, donc un des moyens pour ne pas consommer en boîte, c'est de pas quitter la piste.
Vous arrivez, vous foncez
sur la piste et vous dansez jusqu'à ce que ça ferme. Et ben, à l'époque, j'avais l'énergie et la foi pour ça. Et effectivement, j'ai développé en boîte de nuit des pas, une manière. D'abord, j'ai rencontré plein de partenaires. On danse avec plein de gens, donc ça c'est une sacrée expérience. Et aussi, effectivement, j'ai trouvé, il y avait un espèce de plaisir à inventer des pas, à jouer avec les pas, à copier les pas de quelqu'un, puis les modifier, puis en faire ses propres pas, et puis encore copier quelqu'un d'autre, etc. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui était sans fin. Il y a une recherche qui est passionnante, et donc ça m'a donné envie d'en faire quelque chose. Oui.
Salut Barbara, tu viendrais faire un tour en moto avec moi?
Bien sûr, j'adorerais ça.
En 97 sortait le tube du groupe d'eurodance danois Aqua, Barbie Girl. Le voici repris en 2000 par votre ami Joseph Rakai, qui signe la musique de plusieurs de vos chorégraphies, Philippe Decoufflet. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette reprise? C'est le décalage contre l'esprit de sérieux?
Oh, c'est marrant.
Ouais.
Joseph Rakai a sorti à un moment donné trois albums hilarants, qui sont trois albums Rakai à Hawaï, Karai et ça y est, j'ai oublié le titre du troisième, qui sont des disques de reprises. Et donc il a repris un tas de chansons, celle-ci étant une des plus improbables quand même, avec les moyens qui sont les siens, et en s'affirmant lui-même comme chanteur. C'est un immense compositeur, et c'est sa voix est est drôle, intéressante, mais c'est pas une voix comme celle qu'on a l'habitude d'entendre aujourd'hui, pas du tout. Ni un chanteur à voix, enfin c'est quelque chose d'encore de très différent. Le travail de Joseph Racaille, moi je l'adore parce que soit c'est très inventif et c'est très beau musicalement, soit c'est carrément très drôle. Et là en l'occurrence, c'est vraiment, moi je trouve ça marrant comme tout.
Vous travaillez beaucoup avec des musiciens, je crois, Philippe de Coufflet. Vous avez travaillé avec Claire Diterzi, avec Nosfell et même avec Danny Elfman, celui qui fait la plupart des musiques des films de Tim Burton.
Ah ouais, ça c'était une des grandes rencontres de ma vie. J'ai eu la chance pour un spectacle du Cirque du Soleil à Los Angeles de travailler avec Elfman et donc j'ai été bosser chez lui, avec lui là-bas, et il a composé 1h30 de musique originale pour ce spectacle et ça a été une expérience extraordinaire. Mais oui, j'ai eu la chance de travailler avec Brian Eno, avec Nosfell, Pierre Le Bourgeois, plein de compositeurs. C'est un des grands plaisirs de mon métier que de pouvoir faire, de travailler avec des compositeurs. Et de la danse et la musique, vous savez, c'est deux arts qui sont très très proches, très liés.
Et on va parler du silence qu'il y a entre.
I think dance actually is a far more common experience for all of us.
Yes.
And I think that it has become dance just in general has become something that more and more people see now. Are quite happy to go and see. Dancing, not that it's something that's strange or odd or not part of what they know about. All you have to do with dancing is look. It's a visual art and as such can be fascinating.
Interview de Merce Cunningham au Walker Art Center de Minneapolis en 2008 où il parle du plaisir qu'éprouvent les gens en allant voir des spectacles de danse. Vous qui avez travaillé avec lui, est-il vrai qu'il décidait de l'agencement de ses créations avec des dés ou des pièces pour qu'elles soient régies par le hasard?
Alors, n'ayant pas travaillé dans sa compagnie, je ne peux attester de rien. Mais en tout cas, Cunningham était un grand artiste qui a travaillé effectivement sur différentes manières de composer un spectacle, dont le hasard. Mais c'était ses events qui étaient faits au hasard. C'est-à-dire qu'il a écrit des spectacles en ayant tout à fait conscience de l'enchaînement des choses. Et puis il en avait de plus en plus. Et ensuite, il a fait des spectacles qui étaient vraiment des mises en danger dans lesquelles il joue effectivement au dernier moment. Il jouait au dé le contenu des spectacles avec ses danseurs qui, connaissant déjà énormément de chorégraphie, se retrouvaient à devoir agencer des choses comme ça. Donc il y a une espèce de mélange d'un travail hyper préparé, extrêmement précis, extrêmement clair et qui est totalement remis en question au dernier moment en agençant les choses de manière improvisée. Et ça a donné, j'ai eu la chance de le voir plusieurs fois en représentation et de voir des petites merveilles qui sortait de ce travail. Donc, au-delà du côté expérimental et un petit peu étrange, ça a créé et des forcément, de temps en temps, quand on joue un spectacle au dé, parfois, il y a des moments de flottement, mais parfois, c'est merveilleux, merveilleux.
Et il lui arrivait aussi de faire répéter ses danseurs dans le silence le plus total et il ne découvrait la musique que le jour de la représentation.
Chez lui, la danse est indépendante de la musique, à mon avis, pour les danseurs, n'est pas facile.
Non. Alors, j'aimerais qu'on finisse sur une de vos influences, Philippe de Coufflet, qui est assez amusante. C'est Tex Avery et les Marx Brothers.
Alors,
qui sont la grâce absolue d'ailleurs, les Marx Brothers, quand ils se meuvent dans les films, c'est d'une grâce absolue.
Merci de le dire, je suis tout à fait d'accord. Ben, ça c'est mon enfance, mais c'est ce qui structure. Hein. Donc c'est vrai que j'avais une fascination et pour les Marx et pour Tex Avery. J'allais pour la petite histoire, lorsque j'étais mes dernières années de lycée, où je suis pas resté très longtemps, j'allais à la pause de midi, au lieu d'aller au déjeuner, j'allais au cinéma voir à midi, il y avait des séances d'une heure de Tex Avery qui passaient à l'Odéon, et je filais à l'Odéon voir presque tous les midis une séance de dessins animés. Et pourquoi ? Parce que j'adore et son humour et la manière dont les personnages se meuvent quand même là-dedans, parce qu'il y a un jeu, et après qui m'a beaucoup influencé sur la recherche du mouvement impossible, de tourner sur un doigt, de s'aplatir contre une porte, donc comment recréer ça après, parce qu'on peut imaginer ces choses-là. Tex Avery, c'est quelqu'un qui a repoussé les limites du possible très très loin, dans la mesure où c'est des dessins animés, il pouvait les repousser très très loin. Et moi, je me suis amusé après à essayer de faire pour de vrai un certain nombre de choses qui étaient faites dans ces dessins animés. Et puis les Marx, un des plus grands trios de clowns du monde, quoi.
Merci beaucoup, Philippe de Coufflet, d'être venu dans cette émission.
Plaisir, merci.
Vos nouvelles pièces courtes seront visibles du 19 au 21 novembre au théâtre à l'île de la Réunion, mais il faut vérifier en ligne puisqu'évidemment en ce moment tout bouge. Et à partir de février 2021, il y aura une reprise de Shazam, le spectacle que vous avez créé en 1998. Peut-être aussi un projet avec Jamel Debbouze à Marrakech bientôt. Chers auditeurs, la programmation musicale, les remèdes sont comme toujours sur le site de l'émission. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. J'espère que dans votre âme règne la sérénité d'un crépitement feutré. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h10 pour la nouvelle saison.